Musique est à vous, Junior, et bien sûr à retrouver sur la page de cette nouvelle rubrique podcast, agenda, références et programmation musicale.
À la semaine prochaine!
France Musique est à vous, Gabriel Oliver Aguillon.
Nous sommes ensemble encore pendant 30 minutes. Vous écoutez France Musique est à vous, vos suggestions musicales à l'honneur comme chaque samedi. Il est 9h passé de quelques secondes. Très bonne matinée, pleine de douceur.
Thank you.
Neville Mariner à la direction de l'Academy of St. Martin in the Fields dans La Colombe, extrait des Oiseaux Liuccelli d'Ottorino Respighi, une suite pour petit orchestre composée en 1928, sorte de défi musical. Respighi qui s'inspire de pièces écrites à l'origine pour clavecin seul, des pièces du XVIIIe siècle, et ensuite il réalise une musique pour plusieurs instruments, chaque pièce représentant un oiseau différent. Nous avons par exemple la poule, pièce fameuse de Rameau, mais aussi donc cette colombe que j'aime beaucoup par sa douceur et le temps qui semble s'arrêter. Le dernier message du samedi au répondeur, c'est maintenant à 9h06, la musique partout, y compris dans les livres.
Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 73 ans. Je voudrais vous parler d'un roman de 1993 d'un auteur américain, Frank Conroy. Ce roman raconte l'histoire de Claude Rawlings, un jeune New-Yorkais, fils unique d'une femme chauffeur de taxi et de père inconnu. L'appartement où il vit est humble, mais dans le réduit qui lui sert de chambre, l'enfant surdoué, il sait lire à 4 ans, dispose d'un piano droit à 66 touches, et pour passer le temps, il s'amuse avec les touches. Grâce à M. Huisfeld, juif immigré qui a fui le nazisme, propriétaire d'un magasin d'instruments de musique et musicien lui-même, le gamin va apprendre à jouer et va être confié aux meilleurs professeurs de l'époque. Dans le même temps, il va devoir s'en sortir seul et subvenir lui-même à ses besoins. Le roman raconte les tribulations de Claude Rawlings et son irrésistible ascension. Dans ce livre, on en apprend beaucoup sur la musique, mais aussi sur l'histoire de New York des années 40 et des décennies suivantes. Au cours du roman, l'adolescent espère obtenir une bourse pour être admis dans une des écoles les plus huppées et les plus chères de New York. Il faut avoir un talent particulier pour être boursier. Claude va montrer à ses interlocuteurs qu'il a un vrai don pour le piano en jouant une adaptation de la petite fugue en sol mineur de Bach. C'est un roman passionnant dont je recommande la lecture et je propose de nous faire écouter la petite fugue en sol mineur dans la version que vous préférez. Le roman s'appelle « Corps et âme, l'enfant prodige ». Merci. Thank you.
Angelica Nebel au piano dans cette fugue en sol mineur BWV 578 de Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup Bertrand. La fin des messages, eh bien oui, à 9h11, il faut bien se quitter, en tout cas par vos voix, mais la semaine prochaine, évidemment, nous vous entendrons de nouveau vos timbres de voix au 01 56 40 66 40. À 9h12, tout de suite, un aperçu de votre soirée avec France Musique. Ce soir, dans Samedi à l'Opéra, non pas une œuvre lyrique, mais une soirée exceptionnelle en direct du Royal Albert Hall de Londres. La traditionnelle dernière soirée des Proms, diffusée sur France Musique en direct, ce festival estival prestigieux qui existe depuis plus d'un siècle. Un programme riche et varié par les BBC Singers, mais aussi le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC et à la direction Zachary Oramo. Beaucoup, beaucoup d'œuvres, donc, entre autres la pavane de Gabriel Fauré, une musique de Charles Ives, des extraits de Giannis Kiki de Giacomo Puccini, Saint-Saëns, son concerto dit l'Égyptien avec Stephen Hogue au piano, et puis une création mondiale des chants de marins, des traditionnels écossais, ou encore Pomp and Circumstance de Edward Elgar. Les BBC Singers, formation de chant et l'orchestre symphonique de la BBC, des interprètes que voici déjà de bon matin dans la musique de la compositrice Ethel Smith.
Thank you.
L'opéra La forêt d'Herwalt de la compositrice britannique morte en 1944, Ethel Smith, par l'orchestre symphonique de la BBC, les BBC Singers et John Andrews à la direction. Un opéra qui a été créé à Berlin, puis donné à Londres, Strasbourg et New York. Ethel Smith étant la première compositrice à voir son opéra, donc celui-ci d'Herwalt, interprété au Metropolitan Opera de New York. Des interprètes, en tout cas, que vous pouvez suivre ce soir à partir de 20h en direct de Londres, la dernière soirée des Proms présentée par Judith Chen, donc à partir de 20h. Tout de suite, et pour terminer cette belle programmation faite par vous et uniquement vous, la suggestion de Jacqueline qui est à Besançon et qui nous raconte qu'elle va écouter Julia Fischer ce soir dans le concerto de Johannes Brahms, sous la direction de Christiane Matchelaroux avec l'Orchestre National de France, l'un de nos orchestres maison, au Théâtre Ledoux, donc à Besançon, dans le cadre du 77e Festival International de Musique de Besançon et du Grand Tour du National. Pourriez-vous nous donner un aperçu de son talent en nous faisant entendre la musique de Pablo de Sarasate, compositeur espagnol, grand virtuose violoniste? Plusieurs l'ont interprété, cette œuvre-là, son opus 20, mais là, Julia Fischer, l'une des meilleures violonistes et qui joue dans le monde entier, ce serait super. Eh bien, c'est chose faite, Jacqueline, c'est prévu dans la programmation musicale. Julia Fischer qui était invitée dans la matinale cette semaine, et puis qui était évidemment ici à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique hier, avant-hier même, avant-hier jeudi avec l'Orchestre National de France et donc ce soir à Besançon.
Thank you.
Zigeuner Weisen, opus 20, air bohémien de Pablo de Sarasate, avec au piano Milana Tcherniavska et au violon Julia Fischer, qui sera donc en concert ce soir au Théâtre Le Doubs de Besançon avec l'Orchestre National de France et Christiane Macellarou. Anecdote d'ailleurs capitale, ce Théâtre Le Doubs qui avait la première fosse d'orchestre au monde, construit en 1784. France Musique est à vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour ces moments ensemble. Dans quelle ville Dvorak a composé sa suite américaine et sa symphonie du Nouveau Monde? Telle était la question pour gagner le disque de Nathalie Stutzmann. Il s'agit de New York. Merci pour vos nombreuses réponses. De belles œuvres donc à écouter chez vous. Bravo à Madeleine de Perpignan, Alain de Montreuil et Catherine de Villers sous Saint-Leu. Sachez aussi que Nathalie Stutzmann sera ce lundi 16 septembre dans deux jours entièrement à France Musique toute la journée à l'occasion de cet enregistrement et tout au long des émissions. Merci à toutes les L'équipe de France Musique est à vous ce matin. Jean Brémond et Jeanne Acrab par les attachés de production. Le discothécaire Nicolas Bichet à la technique ce matin. Florian Dittre et Anthony Maillet de Santis. Et à la réalisation, Emmanuel Benito. Tout de suite, L'échappée belle par Jean-Yves Larouturou. Je vous souhaite une excellente journée sur France Musique. N'oubliez pas de nous concocter la programmation de la semaine prochaine. France Musique est à vous, @radiofrance.com. À samedi prochain.
Chaque été, le parc du château d'Ars, dans l'Indre, se transforme en immense fête des musiques traditionnelles. On joue, on partage, on apprend et surtout, on danse. Dans Planète Okora, Pierre Villers nous emmène au bal traditionnel, avec un documentaire sur le festival Le Son Continue. Rendez-vous ce samedi à 23h sur France Musique.
Planète Okora par Aliette Delalleux, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Musique. Il est 9h30 tout juste, tout de suite vous avez rendez-vous avec Jean-Yves Larouturou, L'échappée belle, avec son invité Alexandre Tarot pour la seconde partie de ses entretiens. Musique, L'échappée belle, Jean-Yves Larouturou.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce samedi matin, c'est l'heure de L'échappée belle et comme promis, nous repartons dans une seconde escapade musicale selon le plaisir et la fantaisie d'Alexandre Tarot et de celles et ceux qui peuplent ses rêves. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jean-Yves.
Comment ça va au début de cette seconde escapade?
Très bien, et je suis heureux de vous retrouver.
Qu'écoutons-nous ce matin?
Ceci.
Reviens, sainte nuit, beau rêve, revenez, on ne saurait mieux dire. Nous écoutions Nacht und Träume, nuit et rêve, une très belle mélodie de Schubert, un Lied chanté ici par le violoncelle, très beau, sans apprêt, de Jean-Guilaine Queyras, et par le piano, qui chante ici le premier, avant le violoncelle, et de manière envoûtante, je crois. C'était vous, Alexandre.
Oui, un disque ancien maintenant, qui doit avoir une bonne vingtaine d'années.
Absolument. Mais qui continue à nous faire rêver. Alors, ce matin, au début de ce second vagabondage parmi vos rêves, nous allons tenter de nous élever un peu au-dessus de notre conviction et faire comme si nous étions tout d'un coup par effraction arrivés sur l'antenne de France Culture. On va donc parler un peu de poésie, rêve et poésie. Vous lisez, vous écrivez de la poésie ?
Ah non, je n'écris pas de poésie. J'ai écrit un livre et je lis de moins en moins d'ailleurs à cause de mon téléphone. Tous les soirs, avant de fermer la lampe de ma table de chevet, qui est rarement la même de soir en soir, puisque je vis une grande partie de mon année dans les hôtels, je lis quelques pages d'un livre.
On va continuer avec un grand poète, un grand écrivain français du début du 19e siècle, qui était fasciné par ses rêves. C'est Gérard de Nerval. Le rêve est une seconde vie, affirme-t-il dans Aurélia, dont le titre d'ailleurs est Aurélia ou le rêve et la vie. Et j'ose à peine ajouter, surtout devant un homme de l'art, de toucher le clavier blanc et noir, ceci m'a toujours laissé songeur d'ailleurs, le mot que Nerval laisse à sa tante le soir de son suicide, ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. Alors, le rêve est-il une seconde vie pour vous, Alexandre ?
Comme je vous le disais dans notre première émission, je suis insomniaque. Donc, mes rêves, je m'en souviens, mes cauchemars qui me réveillent, et souvent, ils donnent lieu à une insomnie, mais une insomnie de 2-3 heures. Donc, j'ai le temps de rêvasser à mes rêves, ou de cauchemarder à mes cauchemars, et de les écrire aussi sur un petit carnet, comme je le faisais quand j'étais plus jeune.
Vous voyagez, vous venez de le dire, vous voyagez beaucoup d'ailleurs. Vous touchez beaucoup de piano à travers l'Europe, à travers le monde. Et sans doute, d'ailleurs, êtes-vous plus fidèle. Je ne vais pas vous poser la question à vos valises qu'à vos pianos ou à votre chambre. Je reviens à Gérard de Nerval. Il a écrit « Je voyage pour vérifier mes rêves ». C'est une très jolie formule. Vous voyagez, vous aussi, pour vérifier vos rêves ?
Non, je crois que les rêves, c'est vraiment une vie parallèle. Les rêves paraissent très réels. Quand je rencontre Chopin ou Ravel ou Jean Vienner dans mes rêves, ils sont vraiment là. Quand je vois les yeux pétillants, étincelants qui percent de Maurice Ravel, je me réveille, mais j'ai vu Ravel. Il me faut plusieurs minutes avant de me dire « ben non, c'est pas possible ». Mais si c'était possible, je ne sais pas trop. Vous voyez, c'est une vie qui est très importante pour moi puisque je me souviens de mes rêves tous les jours. Et de rêve en rêve, j'ai une vie aussi. Je parle de Ravel, mais je pourrais parler de bien d'autres personnages. J'ai une vie avec Ravel qui est parallèle, comme des rails parallèles, à celle que j'entretiens avec lui en tant que pianiste.
Une seconde vie, comme le disait Nerval.
Une seconde vie.
Ouais. Le début de la Vallée des Cloches, extrait de Miroir de Maurice Ravel. Une vallée, quelle vallée, on ne sait pas, je crois. Et en tout cas, cette musique inspirée de celle des ensembles de gamelans des îles lointaines, comme on l'entend chez Ravel, chez Dindy, chez Debussy, beaucoup d'ailleurs, qui étaient fascinés par les musiques de Java et Bali qu'il avait entendues dans les expositions universelles. Par Poulenc aussi plus tard, après l'exposition coloniale, et par exemple dans ce concerto pour deux pianos de Poulenc. Vous l'avez déjà joué ou pas ?
Beaucoup. et avec différents pianistes. C'est l'un de mes concertos favoris sur scène, c'est jouissif. Il y a un thème mozartien, il y a l'opérette, le musical, il y a un peu de jazz, il y a un peu de tout. Il y a Poulenc surtout, et on a l'impression de jouer un grand opéra avec plein de personnages.
On entend juste un extrait du final, avec justement un très bel effet de gamelan baliné. Rêver parfois, Alexandre Tarot, des îles lointaines, de Bali par exemple?
Peut-être, je ne m'en souviens pas, mais certainement.
On va écouter de la vraie musique de Bali, après, non pas de la fausse, mais de la musique revisitée par Poulenc, par Ravel. C'est l'Egon Kraton, une musique de danse pour le Palais Royal, qui est tout à fait au sud de Bali, face à l'océan Indien. Une musique du répertoire Semar Pegulingan, je fais semblant d'être très savant, mais il faut le dire, Semar, c'est le dieu hindouiste dont Bali naît de l'amour. Et puis Pegulingan, ça signifie quelque chose, me dit-on, comme s'allonger, se coucher, et de fait, et décider. Des bandes se refusent rien dans l'échappée belle. C'est la musique nocturne jouée dans les cours et les jardins du Palais Royal, au bord de l'onde, près des chambres, pendant les ébats amoureux des princesses et des princes royaux, et jusqu'à leur assoupissement et leurs rêves. Musique de Bali, la musique à l'état naissant, a écrit Thierry Pécou.
Ah oui, et là, il s'agit de son concerto Carabali que j'ai créé il y a 2 ans, qu'on a redonné, qu'on a enregistré avec l'Orchestre de Lyon il y a quelques semaines. Concerto absolument incroyable. J'ai créé pas mal de concertos de compositeurs d'aujourd'hui, notamment de Thierry Pécaud. C'est le 3e que je joue de lui. Mais celui-ci est incroyable. Standing ovation partout. Quand on l'a joué 5-6 fois, à chaque fois un succès populaire dans la salle. Vous voyez une musique qui parle à tous et qui bouleverse les gens.
Qui subjugue,
y compris sur scène dans l'orchestre. J'ai du mal à retenir mes larmes quand je joue cette musique-là. Et dans l'orchestre, ça pleure. On l'a enregistré, c'était donc en juillet, il y a des musiciens qui avaient les larmes aux yeux. Moi, j'ai jamais vu ça, même dans un concerto de Mozart.
Musique, L'échappée belle, Jean-Yves Larouturou.
Il est encore tôt ce matin, ce samedi matin, mais c'est déjà l'heure du quiz à une seule question multiple pour vous, Alexandre Tarot.
Moi, je préfère les concerts classiques, la grande musique, l'opéra, oh là là.
À la Tosca ou la Traviata, j'aime mieux sans foi la bossa nova.
Vraiment, tu sais, tes goûts sont bizarres. Pour moi, le grand art, c'est Mozart. Oh là là.
Tu as raison, c'est plein d'émotions. Viens me faire danser le vrai tamouré.
Question, qu'est-ce que la grande musique, Alexandre Tarot ? Tosca ou Traviata ? Plutôt Puccini ou plutôt Verdi ?
Les deux, mon général. Et cette musique qu'on entend de Francis Lopez me plaît particulièrement. Je ne la mets pas dans une case de petite musique. C'était une musique entraînante, très populaire, mais fine. On s'est beaucoup moqué de Francis Lopez, notamment dans les années 80-90. C'est un grand compositeur. C'est aussi, je peux pas dissocier cet enregistrement de ce qu'a vécu ma mère, puisqu'elle était première danseuse au Châtelet. Elle a participé à plusieurs opérettes avec Luis Mariano qu'on vient d'entendre. Puis on vient d'entendre aussi la voix d'Annie Cordy, si je ne me trompe pas.
Vous ne me trompez
et
pas.
Et Annie Cordy, c'est aussi quelqu'un que j'aimais bien. Je ne pouvais absolument pas parler quand j'étais au Conservatoire de Paris. Je ne pouvais déjà pas dire que j'aimais Michel Legrand, mais alors Annie Cordy encore moins. C'était des années où un artiste de musique classique ne pouvait pas s'amuser. Annie Cordy, pour moi, c'est une chanteuse qui est une actrice incroyable, très bonne chanteuse de variété. Sur scène, elle avait une présence phénoménale. Et c'est une artiste qui a fait ce qu'elle voulait. C'est pas facile d'être soi-même.
Vous avez brillamment répondu à la question « Qu'est-ce que la grande musique ?» l'air de rien. Et vous avez brillamment évité de répondre à la question « Tosca ou Traviata ?» et plutôt Puccini ou plutôt Verdi, mais c'est pas grave. Au contraire, quelle est la musique symphonique la plus onirique pour vous, celle qui porte le plus à la rêverie ou...
Claude Debussy, le prélude d'après-midi d'un faune, les nocturnes, la mer.
Une autre question encore, dans le secret de ce studio évidemment, quelle est la musique, qu'elle soit du piano, musique lyrique, instrumentale, vocale, symphonique, que vous rêvez d'interpréter, aujourd'hui en tout cas, et puis vous savez, vous pensez que bon, ça ne sera jamais pour vous? Vaste sujet.
Beaucoup, beaucoup, parce que prenons les concertos par exemple, qui sont des œuvres larges, importantes, qu'on prend à bras le corps. Un exemple vient en tête, c'est le troisième concerto de Rachmaninov que j'ai toujours voulu jouer. J'ai joué beaucoup le deuxième, je l'ai même enregistré, mais le troisième, je voulais le jouer quand j'avais 20 ans, j'ai pas eu le temps, je suis passé à autre chose. Et maintenant, je pense que je ne le jouerai pas, parce que j'ai pas envie de l'apprendre. Je laisse ça à beaucoup d'autres pianistes, encore une fois, le répertoire. Alors pour le concerto, j'ai un dictionnaire des concertos pour piano et orchestre chez moi. Il y a 2000 concertos. C'est un dictionnaire qui a été écrit dans les années 80. Et il doit en manquer. Donc, faut imaginer 4000 ou 5000 concertos. Et puis, il y a mon répertoire aussi, que j'ai construit au fil des ans. Je dois avoir, je ne sais pas, une trentaine, même peut-être 40 concertos. J'ai envie de les jouer. Ces concertos-là, plus ceux que je vais défendre, les concertos contemporains, on a parlé et écouté Thierry Pécou, j'essaye de créer un concerto contemporain d'un compositeur de nos jours chaque année, ce qui me donne beaucoup de travail, de préparation.
Vous créez bientôt?
Alors, je crée à San Francisco, à la fin du mois, le nouveau concerto pour piano, enfin, le premier concerto pour piano et orchestre de Nico Meli, avec Salonen et l'orchestre de San Francisco, qui est exceptionnel. Donc, là aussi, c'est plusieurs mois de préparation. Donc, vous voyez, c'est plutôt des œuvres comme ça que je n'ai pas rêvé de jouer, que je voulais jouer. Et il arrive un moment dans la vie où on se rend compte qu'on ne peut pas tout jouer. Et alors on met des œuvres au placard, ce qui n'empêche pas qu'on change d'avis.
Ou qu'on puisse les entendre sans les jouer.
Oui. Thank you.
Parmi celles et ceux qui vous connaissent et vous fréquentent et à qui j'ai eu la chance de parler, ils vous disent plutôt d'humeur parfois un peu grise, mais plutôt constante, jamais énervée, en tout cas jamais au point de se montrer furieux. Je pense que c'est faux, parce que moi je peux témoigner du contraire. Je vous ai vu plus qu'énervé et presque furieux en traversant la place de la Bastille, qui est le bon endroit pour être furieux et même se révolter d'ailleurs, bien sûr. Et en l'occurrence, c'était contre des cyclistes, je ne sais pas si vous en souvenez, qui filaient à vive allure, complètement indifférents aux piétons ou aux codes de la route.
Alors d'abord, je ne sais pas à qui vous avez demandé, mais je suis pas vraiment d'humeur grise, je crois être plutôt un bon vivant. Au contraire, je suis un nerveux qui ne le montre pas et j'ai des colères sourdes. Ce sont les pires.
Mais dans vos rêves également, est-ce qu'il vous arrive de montrer de l'agacement, à tout le moins de faire reproche à tel ou tel qui tout d'un coup apparaît et vous dites encore toi et tu viens dans mes rêves ?
Non, je ne dispute personne dans mes rêves, mais il y a des personnages qui reviennent régulièrement, et c'est vrai que je me posais la question, pourquoi toi ? Pourquoi tu reviens là ? Est-ce que j'ai besoin de toi ? Est-ce que tu veux me faire passer un message ? Pourquoi reviens-tu à nouveau ?
Qui, par exemple ?
Barbara. Barbara, qui est là tout le temps. Déjà, les photos de cette grande artiste parsèment les murs de mon appartement parisien. Je parle d'elle à peu près tous les jours. Et c'est surtout, elle agit sur moi un peu comme un professeur, si vous voulez. Dans la vie, je me demande qu'est-ce qu'elle aurait fait dans telle ou telle situation. Mais dans mon jeu musical aussi, la manière dont elle gérait une phrase musicale, dont elle vivait sa vie d'artiste, sur scène, comment vivre l'artiste, je sais pas si c'est un lapsus, comment vivre la scène. Parfois, vous n'êtes pas au top de votre forme. L'envie même d'être sur scène peut vous abandonner quelques heures avant d'y aller. Barbara est là.
Mais elle vient et elle revient dans cette seconde vie de vos rêves, mais vous l'avez connue aussi dans la vraie vie, dans la vie éveillée, non ?
Je l'ai vue sur scène, je l'ai croisée parfois à la fin de ses concerts. On devait faire, dans les dernières semaines de sa vie, on devait faire une émission qui s'appelait Tea for Two sur cette même antenne. Et puis finalement, elle est morte et l'émission ne s'est pas faite.
Attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, ils sont vivants mes souvenirs, le passé ne veut pas mourir. Pas parmi les plus connus peut-être, mais me semble-t-il parmi les plus belles chansons de Barbara, un vrai chef-d'œuvre je trouve. Et nous allons l'écouter, non pas dans l'impeccable enregistrement de studio de 1963, mais, vous l'avez souhaité, dans la version sur le vif, au Châtelet en 1993, à bout de voix mais sublime.
Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendez que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi ouvrir cette porte, laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calme mon délire. Il est, paraît-il, mes rivages où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours morts y font naufrage, épave noire du passé. Tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir, pour que libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va sourire. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire.